carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.
Doter la communauté arménienne d'une représentation élue, tel est l'objectif des dirigeants du CCF qui ont élaboré un projet pour concrétiser cette idée d'élection intracommunautaire. Un projet qui ne date pas d'hier et qui semblait même oublié compte tenu des difficultés et des objections rencontrées. Mais finalement, la ténacité a payé puisque le projet est aujourd'hui sur les rails. Et pour en parler, nous recevons ce matin les deux coprésidents du CCF. Arat Oranian, bonjour.
Bonjour.
Mourad Papazian, bonjour.
Bonjour.
Almen Kouyumdjian, avocat, membre du Conseil national du CCF, bonjour.
Bonjour, Asmik.
Et enfin, Gaïd Minassian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et maître de conférence à Sciences Po et vous avez été le chargé de mission auprès du CCF pour ce projet. Alors, en préambule, rappelons que la communauté arménienne de France est aujourd'hui représentée pour les instances officielles, en tout cas par le CCF, qui a succédé au comité du 24 avril, qui était une appellation un peu réductrice, car elle sous-entendait que ce comité n'avait pour tout champ d'action que la reconnaissance du génocide ou l'organisation des cérémonies commémoratives. La nécessité de faire comprendre que la cause arménienne compte d'autres enjeux a donc conduit à la création du CCF, mais rapidement, celui-ci a également montré ses limites. Et l'une d'entre elles étant sans doute la question de la représentativité, car qui parle au nom de la communauté, des associations, des individus, tous ont-ils le même poids, que l'association compte 10 membres ou 100 ? En bref, quel est le point de départ de cette réflexion pour passer à un autre mode de représentation ? Et je pose la question aux deux coprésidents actuels du CCF, si vous voulez bien nous expliquer un peu le point de départ. Mourad Papazian.
Oui, vous avez évoqué, Hasmik, des éléments importants, c'est-à-dire que qui représente la communauté arménienne en France. Aujourd'hui, le comité du 24 avril, puis le CCAF installé dans les trois régions, est un regroupement d'associations arméniennes qui travaillent depuis longtemps, qui constituent la colonne vertébrale de la communauté. Mais en réalité, nous ne représentons pas la communauté arménienne en tant que telle. Donc c'est la raison pour laquelle il nous avait semblé important de développer un projet de représentation démocratique de la communauté arménienne qui permettrait de représenter tout un chacun, les individus qui ne sont pas dans les associations, mais également les membres et les sympathisants de l'ensemble des associations, dans le but de renforcer la dynamique communautaire, la représentation communautaire.
Mais ça, c'était une réflexion interne aux organisations, ou est-ce que vous avez eu des retours au sein de la communauté, sur ces limites peut-être du CCAF, Arat Oranian ?
Non, je crois qu'on a tous, au sein de nos associations respectives, une vision, si vous voulez, global de la situation de la communauté arménienne et des réformes nécessaires à entreprendre pour son évolution et pour qu'elle prenne plus de poids, plus de pouvoir et qu'elle soit plus en accord avec les objectifs qu'on peut se fixer d'un point de vue communautaire, patriotique ou simplement du point de vue de nos intérêts ou de nos droits en tant que collectif qui a une histoire particulière. Donc on a bien vu qu'il y avait un décalage entre cette communauté arménienne, l'immense majorité de la communauté arménienne composée d'individus, et par ailleurs un CCAF qui existait, qui avait le mérite d'exister, qui était fondé sur des associations qui sont les chevilles ouvrières de la communauté arménienne, mais qui en même temps était un petit peu en décalage par rapport à la réalité sociologique. Et il fallait bien à un moment donné qu'on se donne les moyens de réaliser une équation entre, ou en tous les cas une liaison plus directe entre les instances censées représenter les Arméniens et les Arméniens eux-mêmes.
Alors, Mourad Papazian, Arat Oranian, vous êtes vous-même responsable d'association. Armen Kouyumdjian, vous faites partie de l'AFAJA, mais Gaïd Minassian, vous n'êtes pas membre d'une association, et justement, vous êtes un exemple de ceux qui peuvent avoir besoin que la représentation de la communauté ne soit plus uniquement un regroupement d'associations. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont eu cette envie, justement, d'accéder à un autre type de représentation?
Alors oui, franchement oui, parce que quand on voit l'état du CCAF, effectivement ça a le mérite d'exister, et c'est un exemple même pour l'ensemble des diasporas arméniennes dans le monde, puisque je crois que c'est la seule c'est le seul pays où il y a un organe unitaire, on va dire.
Oui, c'est déjà ça.
Voilà, c'est déjà ça.
C'est déjà ça.
Mais je dirais que c'est un modèle qui est traditionnel. Si on peut comparer ce modèle, c'est la jirga en Afghanistan. C'est un chef de tribu, donc un président d'association. Voilà, et quel que soit le nombre de membres dans sa tribu, on parle, et c'est le consensus.
Ouais.
Alors je suis un peu là, je suis dans la provocation, mais ça ressemble à ça. Et effectivement, moi je fais partie de ces gens qui sont dans... Je fais partie de ces gens qui sont dans la, qui ne sont membres de rien,
d'aucune association,
d'aucune organisation, oui. Etc. Et effectivement, il y a un décalage, il y a un fossé énorme entre ce qui existe et la réalité. Et en fait, on passe d'un modèle à un autre, un modèle communautaire traditionnel à un modèle post-moderne, j'ai envie de dire, et un modèle fondé sur l'individu. Aujourd'hui, les gens qui vont en Arménie n'ont plus besoin des réseaux communautaires pour aller en Arménie. Et quand ils reviennent, ben, où ils sont. Voilà. C'est l'idée, c'est de regrouper tout ça.
L'idée, c'est de regrouper, de regrouper les forces vives. Alors, Abin Koumijan, je disais, vous êtes avocat, et vous-même, alors, en tant qu'avocat, en tant que juriste, il y a des associations, elles sont élues, il y a des représentations. Justement, vous avez l'habitude d'un fonctionnement, lui, qui passe par les urnes, et adapté à la communauté arménienne, ça vous semblait aussi nécessaire?
Mais je crois que cette évolution nécessaire, voulue et souhaitée par beaucoup d'Arméniens, répond à une question essentielle, celle de la légitimité. Finalement, qui a le droit de parler au nom de la communauté arménienne? Est-ce que ce sont les trois partis traditionnels, comme ce fut le cas à une époque où on avait régulièrement un communiqué de ces trois organisations qui parlaient au nom de la communauté arménienne? Est-ce que après c'était le comité du 24 avril, puis le CSAF? Le flambeau a changé progressivement, mais fondamentalement le problème restait le même, c'est-à-dire que beaucoup d'Arméniens ne se sentaient pas du tout représentés et concernés par le discours tenu par ces représentants officiels, qui s'était, je dirais pas autoproclamé, parce que finalement la nature ayant horreur du vide, le CCAF a occupé une place que personne ne pouvait occuper à sa place. Mais aujourd'hui, il faut, même si on peut faire effectiteurs arméniens d'action, peut-être même en direction de l'Arménie.
Alors je pense que nos auditeurs ont un peu mieux compris ce dont on va parler ce matin. On va parler des élections qui découleront donc du changement de titre de la représentation qui deviendra le CFA, le Conseil franco-arménien. Et pourquoi je fais cette parenthèse? C'est pour leur dire que l'antenne leur sera ouverte très largement ce matin à partir de 11h pour qu'ils puissent justement intervenir et vous dire, messieurs, ce qu'ils pensent de ce projet que vous leur présentez ce matin et de la suite qui lui sera donnée. Alors on va peut-être prendre des dates, les grandes dates de ce projet, la genèse. Alors je disais, Gaïs Milassian, vous avez été le chargé de mission auprès du CCF pour ce projet. Peut-être débuter avec vous sur les grandes dates, comment ça a été élaboré, ou les coprésidents veulent...
Alors sur le CFA
maintenant, parce que là donc vous avez décidé, vous co-président, vous CCAF, de lancer le projet. Alors juste quand même, avant de revenir sur ce que je disais en préambule, on avait l'impression que ça avait été un petit peu mis aux oubliettes. Il y avait eu des objections quand même qui avaient été soulevées lorsqu'en son temps le projet d'élection avait déjà été proposé, des difficultés qui se posaient à ce projet.
Écoutez, la FRA a pour sa part présenté un projet similaire, en tout cas articulé autour du principe d'élection démocratique au sein de la communauté arménienne pour élire une représentation. Il y a à peu près 10 ans, c'est un projet qui avait pour nom de code l'ADRAF, Assemblée démocratique de représentation des Arméniens de France, qu'on a largement présenté dans des réunions publiques, des meetings, des débats un peu partout en France. Et on avait recueilli effectivement... en gros, une quasi-unanimité, ce qui est plutôt bon signe pour l'avenir, une quasi-unanimité de satisfaction de la part des participants à ces débats, à ces réunions publiques. Puis, il était important de partager ce projet avec les partenaires, les grandes organisations, les CCAF, etc. Mais il fallait du temps. Il fallait du temps pour échanger, pour discuter, pour justement travailler sur les objections. Et puis, effectivement, il y a 2 ans, le CCAF a composé une structure pour remettre au goût du jour ce projet.
D'accord.
Et les choses ont mûri.
Lancer
et,
vraiment
voilà,
le
absolument.
Projet concrètement. Arat Oranian ?
Oui, je crois que cette idée d'élection, en réalité, elle est récurrente, elle existe depuis très longtemps. Nous-mêmes, on l'a défendu dans Nouvelle d'Arménie il y a 20 ans, au moment de la... on n'est pas en train de rentrer en campagne électorale et essayer de récupérer un projet qui est maintenant collectif. Mais c'est vrai que c'est une idée qui est effectivement... Mais en même temps...
Parce qu'elle répond à un besoin, si elle est ancienne.
La question, c'est qu'on aurait dû, comme un certain nombre de peuples... qui ont eu des difficultés, qui ont connu des drames, etc. Je pense aux Juifs ou je pense aux Palestiniens à travers l'OLP. Il y a très longtemps qu'on aurait dû avoir une instance représentative de ces gens privés de leurs droits et de leurs données.
Mais là, vous parlez à l'échelle mondiale, là.
Au niveau du peuple arménien.
Oui, c'est ça. Mais
au niveau du peuple arménien, de la communauté arménienne. On est très, très en retard par rapport... Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aurait dû faire très, très... Malheureusement, les conditions d'existence, d'organisation, de dispersion de la communauté ne nous ont pas permis d'accéder à cette étape. Mais c'est vrai que c'est une idée qui est en l'air depuis très, très longtemps. C'est la moindre des choses. Que ce peuple qui a été privé de tous ses droits, à un moment donné, se donne les moyens de prendre un ascendant sur lui-même et d'exprimer sa volonté à travers un processus démocratique.
D'accord. Donc, Gaïs Minassian,
oui.
Le CCF s'est tourné vers vous pour l'aider à rédiger, en fait, les statuts, pour réfléchir. Alors, je vous laisse dérouler la genèse du projet.
Alors, on m'a contacté, pas que moi d'ailleurs, René Dzagoyan était aussi co-chargé de mission. Et tous les deux, dans notre coin et ensemble, on a proposé, au bout de 6 mois, on a proposé un projet. Un projet sur lequel on s'est entendu à 80%, et puis 20%, on laissait ça à l'arbitrage du Conseil national du CCF. Puis René, pour des raisons personnelles et familiales, s'est un petit peu retiré, mais il est à fond, et je le salue là, j'en profite s'il écoute, il est à fond d'accord pour le projet, etc. Donc ce projet a été présenté, et puis... au bout d'un an et demi de discussions, de réunions en Conseil national, il a été amendé, il a été l'objet d'arbitrage. Et le 7 novembre, donc vous voyez, c'est très récent, le 7 novembre 2010, à l'unanimité, le Conseil national a adopté ce projet qui doit maintenant suivre une procédure de validation pour être concrètement, acté d'abord par les associations, puis ensuite dans le cadre de réunions publiques, mais là ce sera acté et là on passera à la phase d'inscription, etc. Moi, ce que je voudrais dire, pour dire que les temps ont changé, c'est-à-dire que la guerre froide entre Arméniens est terminée, et tant mieux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, en tant que personne qui ne représente rien, je peux vous assurer que je salue les membres du Conseil national pour leur intelligence collective, d'avoir mis au service de l'intérêt général ce produit, ce bien commun. Le CFA, c'est l'enfant. Vous voyez, toutes les organisations qui étaient autour de cette table du Conseil national ont accouché d'un enfant. Et cet enfant, c'est le CFA. Et le CFA, c'est leur bien commun. Et si je peux me permettre, prenons un par un, si vous voulez, les grandes tendances du CCF. Si on prend la FRA a gagné sur un point. Elle disait, moi, ce que je veux, c'est le suffrage démocratique. Une personne, une voix. Et là. L'UGAB disait, moi ce que je veux, c'est l'unité. Absolument l'unité. Elle l'a, il y a une structure, elle l'a. La JAF disait, nous, ce qu'on veut absolument, c'est le principe égalitaire et régional. Et elle l'a, puisqu'il y a trois...
Oui, on va venir après dans le détail, mais là c'est bien de présenter dans les grandes lignes.
L'ENAM avec Ara Tourangian disait, moi je veux le suffrage direct. Je veux que les gens élisent directement leurs délégués. Et c'est le cas. Et Almen Kouyoumdjian pour la FAJA disait, moi ce que je veux, c'est de l'originalité, de la légitimité et de la modernité. Et je pense que le projet en lui-même est suffisamment porteur de modernité pour satisfaire Almen sur ce point-là. Ce qui fait que l'addition de toutes ces motivations, de tous ces principes, débouche sur le CFA. Et j'essaye, moi, personnellement, depuis maintenant 2 ans, parce que je fais que ça quasiment sur ce projet-là, d'essayer de voir où est le... Est-ce qu'il y a anguille sous roche ? Où est le problème ? Où est la faille ? Et je peux vous assurer que, bien sûr qu'il y a des questions qu'on peut se poser sur les électeurs, sur comment ça va se mettre en place.
Oui, l'idée, c'est de désamorcer avant même que
voilà,
soit posé les problèmes.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les problèmes qu'on a jusqu'à maintenant vont être réglés. On aura d'autres problèmes qui correspondront à ce nouveau système. Mais tous les problèmes qu'on a jusqu'à maintenant seront réglés.
Alors, Admin Koumdian, je disais tout à l'heure, la FAJA, c'est une association de juristes. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit fabriqué en interne au sein du CCAF, ce projet de CFA. Mais vous avez décidé quand même de vous tourner vers des experts. Pourquoi ce choix de ne pas travailler justement entre vous ? Parce que là aussi, on voit qu'il y a une volonté d'innover aussi, d'aller vers d'autres interlocuteurs. Non, peut-être que vous n'êtes pas opposé.
Là, on marche véritablement sur les œufs. Bon, on n'a de toute façon pas présenté nous-mêmes de projet en tant que tel. Hein. On a été à chaque fois effectivement consultés, soit par René Dzagoyan, soit par Gaëtz Mination quand ils avaient des idées, des réflexions à alimenter. Mais c'est un projet qui n'appartient à aucune association, mais à toutes les associations. Donc même si effectivement nous sommes juristes et nous avons un regard peut-être plus technique du projet, nous sommes pas plus légitimes qu'une autre association ou organisation à présenter ce projet-là. Quoi. Je veux dire, il faut que ce projet s'adapte à la sociologie arménienne. Il faut que ce projet ne soit pas un modèle type qu'on puisse imposer aux Arméniens. Il faut que ça corresponde aux attentes, aux besoins et à notre réalité sociologique en France, en tout cas. Donc c'est suffisamment compliqué. Il a fallu réunir des gens déjà rien qu'à Paris. Après, vous avez les, comme Gaëtz le soulignait, les nuances régionales, hein, parce que à Paris, quelles que soient, je dirais, les tendances habituelles des partis traditionnels, voire les oppositions classiques que l'on connaît tous, entre Paris et Lyon et Marseille, vous avez des approches, des points de vue différents. Donc c'est très compliqué de mener à terme un projet comme celui-là, en faisant intervenir à la fois des organisations qui sont souvent opposées et parfois, je dirais, nerveusement, dirons-nous, et puis des régions qui sont souvent très différentes où certaines traditions locales sont bien imprégnées et c'est très compliqué.
Donc ce qui ressort de toutes vos interventions, c'est l'unité, en fait. Là, vraiment, c'est ça, exact. Ce qui prime. Exact. Et c'est ce qui va être obtenu grâce à ce CFA. Enfin, ça peut pas être autrement, quoi.
Unité, pas uniformité.
Unité structurelle. De la représentation. Exactement. Qui sera une représentation qui pourra être considérée comme la représentation unitaire, comme on va dire.
C'est plus que ça, en réalité. C'est parce que l'unité, on l'a aujourd'hui à travers les CCAF. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, c'est mettre l'unité sur la place publique, remettre l'individu au centre de la vie publique arménienne. Mais l'objectif, surtout, en réalité, du CFA, du projet CFA, s'il aboutit, c'est quoi ? Pourquoi on va vers ce projet-là ? Parce qu'on a un besoin de renforcement, on le sent bien. On a un besoin de rassemblement du plus grand nombre. Et on sent bien qu'en France, aujourd'hui, alors qu'on est à la quatrième ou cinquième génération de Français d'origine arménienne, d'Arméniens qui vivent en France, on a besoin, pour rassembler le plus grand nombre, pour se moderniser, pour se renforcer, mais d'aller vers un système qui soit véritablement démocratique. La démocratie, on le vit à tous les niveaux en France. Donc, si on a envie que des personnes, des individus, des hommes et des femmes non engagés dans la vie communautaire, dans les organisations, puissent rejoindre en réalité la vie communautaire, il faut qu'on puisse la moderniser et la mettre véritablement au goût du jour. On va avoir besoin encore de toutes les associations. Et les associations ont toute leur place, évidemment, parce qu'elles sont, je disais, la colonne vertébrale, Ara disait la cheville ouvrière, évidemment, et ça va continuer. Mais on a besoin de rassembler beaucoup plus large.
Justement,
et dans l'union, effectivement. Et parce qu'on a des défis devant nous, parce que la Turquie se renforce, parce qu'on a des challenges de plus en plus importants, et donc nous-mêmes, nous allons avoir besoin d'une stratégie de renforcement.
Oui, mais au-delà de l'interne, pour l'externe, c'est aussi nécessaire de dire, voilà, nous représentons, nous sommes une instance élue, donc ça change quand même la donne pour vos partenaires politiques, économiques.
Mais complètement, à partir du moment où vous avez un système qui est fondé sur le scrutin démocratique et le suffrage le plus universel, c'est-à-dire ouvert, les pouvoirs publics vont vous regarder différemment. Je veux dire, c'est une chose de représenter 2000 personnes, c'est autre chose de représenter 10, 15 000, voire plus, pourquoi pas.
Oui, ça va nous mettre dans un autre type de rapport relations, et de relations qu'on est en train de créer justement avec le pouvoir public et également plus loin probablement avec l'Arménie. Ça sera une manière de porter d'une manière plus forte également en Arménie la voix des Arméniens de France.
Alors, je lisais en préparant cette émission, Gaëlle Milassian, vous disiez la seule façon de conserver l'unité, c'est de remettre le pouvoir aux individus avec l'élection, justement, avec ce droit d'élire. Donc, si tout le monde peut choisir la représentativité qui est celle de la communauté, on part du principe que, normalement, il ne peut y avoir qu'unité puisqu'on a choisi les élus, nos délégués. Mmh. Mais enfin, ça peut être aussi... ça se voit tous les jours dans tous les pays. Quelqu'un est élu, il ne représente pas l'ensemble de la population. Donc...
J'ai pas dit ça.
Non, mais en quoi, justement, le fait de donner le pouvoir aux individus de choisir...
Bah, tout simplement parce que la légitimité, l'émanation de cette légitimité, c'est l'individu. Et forcément, les représentants ou les forces politico-culturelles qui seront en compétition seront obligées de policer leur discours, seront obligées de faire attention à leur candidat ou leur candidate, seront obligées de tenir compte, cette fois-ci, et pour une fois et désormais, de l'avis des simples gens, des simples électeurs. C'est ça qui change. Jusqu'à maintenant, on avait un système vertical du haut vers le bas. Tenez, voilà, on pense ça, on dit ça, etc. Sans rendre compte. Personne ne rendait des comptes. Armen a parlé du concept de légitimité, je rajouterais le concept de responsabilité. Dans la vie politique arménienne, au sens large, en Arménie comme en diaspora, et quel que soit le courant politique, personne ne se sent responsable. On a des responsabilités en tant que parti.
Mais dans les associations, les gens sont élus en interne.
Non, mais ça c'est autre chose. Mais personne ne se... Qui rendait compte au peuple arménien? Qui rendait compte au peuple arménien?
Je veux dire, ça vous fait réagir. Marqué... Tout le monde veut réagir.
Non, ouais, je voudrais juste surenchérir. Ça va beaucoup plus loin parce que non seulement les Arméniens vont devenir électeurs, mais ils peuvent devenir candidats et présenter une liste.
Exact.
Donc le paysage qu'on connaît habituellement peut tout à fait être totalement chamboulé si, par exemple, des jeunes décident, en réaction à ce qui existe déjà, de présenter leur liste et puis avec leur dynamisme, leur volonté de faire bouger les choses, obtiennent un résultat tout à fait plus qu'honorable et ils peuvent rentrer comme ça dans la scène politique arménienne alors que dans le système actuel, ils auraient eu beaucoup de mal. Enfin, ils seraient restés aux portes du CCAF, présents aux assemblées générales une fois par an, et puis c'est tout.
Oui.
Moi, je voudrais insister sur un concept que vient de développer Gaët, c'est celui de la responsabilité. Parce qu'en réalité, pour chacun d'entre nous, ce système est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Il crée de nombreux obstacles. Mais chacune des organisations réunies pendant 2 ans, qui se sont opposées à un moment donné, puis qui se sont rassemblées, ont considéré que pour aller plus loin aujourd'hui, pour être plus puissant, pour être plus fort au niveau des pouvoirs publics, au niveau de la vie publique arménienne, au niveau de la défense de notre cause, on avait besoin de créer ce rassemblement qui met chacun d'entre nous en danger quelque part, parce qu'effectivement, ça remet l'individu au centre de la vie publique. L'élection créera plus de légitimité. Et en réalité, c'est pas du tout un système au profit d'une association ou des associations ou des partis ou des structures qui existent déjà. C'est un système, au contraire, qui va créer une vraie dynamique et qui est un signal, en fait, à tous ceux qui sont pas dans les organisations, mais qui s'intéressent, malgré tout, de près ou de loin, à la cause arménienne, à la communauté.
Je rajouterais juste une dimension légitimité, responsabilité, tout à fait. Unité, on l'a dit, et en même temps, nécessaire structuration des différences. Il y a des sensibilités, il y a une diversité politique, sociologique dans la communauté arménienne. Je ne sais pas s'il y a des diversités d'intérêts, mais en tous les cas, il faut que ces différences puissent avoir l'occasion de pouvoir exister, s'exprimer et d'une manière autonome, et que cette diversité puisse être structurée d'une organisation unitaire. C'est très important et c'est là où il y a véritablement modernité dans ce projet.
Unité, modernité, efficacité, structuration.
Sans vouloir embêter un samedi matin les auditeurs, mais on passe d'une légitimité traditionnelle, c'est Max Weber, à une légitimité légale rationnelle, c'est-à-dire par le vote. C'est aussi du Max Weber.
Enfin, pour être
Max Weber, un sociologue. Voilà.
Non, mais si vous voulez dire,
mais c'est la base de la légitimité en politique et en culture dans ces systèmes-là, c'est que voilà, il y a 3 types de légitimité. Et là, le CCAF était fondé sur la légitimité traditionnelle. Je vais pas revenir sur ce qu'a dit chacun d'entre nous ici. On passe à un autre type de légitimité plus forte.
En tous les cas, je voudrais dire quelque chose qui soit peut-être un petit peu plus, peut-être moins
plus
grand public, mais en tous les cas, si vous voulez, pour les il faut comprendre cette organisation comme étant une espèce de grand rassemblement de tous les Arméniens.
Exact.
Une espèce de super association de tous les Arméniens qui existera avec des courants.
Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet.
Qui existera
là.
Avec des courants, donc il y aura des courants plus ou moins importants, mais nous serons tous le même rassemblement, nous serons le même syndicat des Arméniens en France notamment.
On peut donner une image quand même, c'est ce qui est aujourd'hui le cas avec l'Assemblée nationale, un Parlement élu, c'est ça
c'est
l'idée
ça, avec en moins quand même les pouvoirs régaliens en moins.
Modestie, hein.
Et toute la partie sur la constitutionnalité, on n'est pas là-dedans. Mais si on peut, oui, ce serait une sorte d'assemblée. National et régional, on verra les détails, mais c'est un peu, ça ressemblerait, attention, hein, à toute proportion gardée.
C'est juste pour
qu'on
visualise.
Il ne faut surtout pas penser qu'on est un État dans l'État, surtout pas, parce qu'on est les pouvoirs régaliens. Arménie est mieux placée pour le savoir. Les pouvoirs régaliens sont du monopole, de l'apanage des institutions républicaines. Ce projet est fondamentalement républicain. Il n'est pas du tout communautariste, puisqu'il peut y avoir aussi des électeurs qui ne sont pas d'origine arménienne qui peuvent participer et en tant qu'électeurs et en tant que candidats. Et donc, on n'est pas du tout dans cette
configuration. Mais c'est juste pour que les auditeurs visualisent.
Mais le syndicat de la question arménienne, oui.
Un syndicat n'est pas un État dans l'État.
Non, donc on peut prendre plutôt
l'image. On n'est pas encore au stade où on serait l'équivalent de l'Assemblée nationale corse, si vous voulez. Non. Parce que ça procède encore d'un autre type de processus. Mais. En même temps, à terme, on pose peut-être les jalons, parce qu'on est quand même une communauté qui est installée ici, même si on a un statut, on n'est pas territorialement localisé comme les uns ou les autres. En tous les cas, à terme, se poser la question de l'articulation de notre existence avec des pouvoirs publics, c'est sûr.
Mais là, on va revenir donc concrètement alors à ce projet de CFA. On a parlé d'élections. Alors, qui va être électeur et pour élire qui et pour élire combien de délégués? Alors, cette assemblée représentative, elle va être composée de combien de personnes?
51
personnes, donc réparties sur les trois régions d'après
ce que vous avez expliqué. C'est ça, on a coupé la France en trois, oui. Nord, centre, sud. Il y a une procédure d'inscription.
Alors, combien de personnes au nord, combien de personnes au centre, combien
tout dépend du nombre d'électeurs qui se répartissent selon les circonscriptions. Prenons l'exemple qu'on prend d'habitude. Si on a 10 200 électeurs, je vais faire très simple. Si on a 10 200 électeurs pour 51 sièges et qu'on a 4000 électeurs sur la partie nord de la France, donc de la Basse-Normandie à Alsace, si on a 2600 électeurs de la Bretagne aux Rhône-Alpes, et si on a 3600 électeurs de l'Aquitaine à la Corse, je vais m'arrêter là parce que c'est peut-être un peu compliqué, ça nous ferait 20 sièges au nord, 13 sièges au centre, 18 sièges au sud.
D'accord. Donc c'est une question de répartition et de proportionnalité. S'il y a plus d'électeurs, ils auront plus de délégués, c'est logique.
C'est logique. Hein? D'accord. Mais tous ces candidats, enfin ces 51 sièges, les 51 délégués qui vont être élus cumulent deux fonctions. Ils cumulent la fonction de délégué régional et de délégué national.
D'accord. Voilà. Donc 51, ça c'est un nombre fixe. Ça ne peut pas devenir plus ou moins.
Ça peut devenir plus si on va vers plus en plus d'électeurs. Là, on part sur la base de 10 000, 8 000, 10 000, 12 000, 15 000. Après, ça relèvera du choix des 51 de décider s'ils veulent augmenter le coefficient,
donc,
s'ils veulent augmenter le nombre de sièges.
Si dans la région centre, donc de la Bretagne à Rhône-Alpes, ils souhaitent avoir 21 délégués, il faut qu'ils soient très nombreux à être électeurs. En fait, ça va être à chacun, régions, de se mobiliser.
Exactement, ça va être la course à l'inscription.
Donc, dès maintenant, là, on explique à nos auditeurs que ça va dépendre aussi de la composition, l'équilibre entre les régions.
Asmig, puis à partir du moment où le système est fondé sur l'individu, tout dépendra des individus. Je veux dire, si les Arméniens ou les électeurs, les futurs électeurs, décident de réaliser ce projet, ils s'inscrivent. Ils ne veulent pas s'inscrire, c'est leur droit, mais après il y aura des vraies questions à se poser ici de la part de l'ensemble de la communauté.
Donc 51 délégués répartis sur 3 régions qui vont être élus à partir de listes. Hein. C'est ce qu'on appelle les élections à la proportionnelle.
Scrutin de liste.
Scrutin de liste. Mmh. Ça veut dire qu'on présente une liste, ce qui se fait aujourd'hui pour
les européennes
ou les municipales, et sont élus en proportion du nombre de voix reçues.
Exact.
1, 2, 3, 4, 5 personnes sur la liste. Hein. On est bien d'accord.
Le système est plus ressemblant aux européennes parce que les municipales, c'est un scrutin en majorité.
D'accord. Non, c'est juste encore une fois pour simplifier, puis même moi-même parce que j'ai un peu de mal à suivre ces histoires de proportionnel.
Vous n'êtes pas la seule, rassurez-vous.
Merci, ça me rassure. Donc, alors ces listes, qui va les composer? Elles vont être composées d'individus, d'associations? C'est des associations, c'est des partis qui vont les composer? Comment ça va se passer?
Bah, qui elles veulent, enfin,
ceux qui ont envie de participer, tout le monde, voilà, en fait, tout le monde. À ces élections, à ce scrutin. Donc pourront composer des listes, donc avec un programme, avec une offre politique, une offre culturelle, une offre tout court en direction des électeurs. Il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, un nombre de listes qui n'est pas limité en fait par région. Et donc il y aura des listes qui seront présentes sur toutes les régions, des listes qui ne seront pas présentes sur toutes les régions. En réalité, c'est une vraie participation démocratique.
Oui, mais concrètement, puisque là vous représentez la FRA Mourad Papazian, est-ce qu'il va y avoir une liste FRA, une liste UNCHAC, une liste politique,
des listes vous qui rentrez sont... déjà dans la stratégie de campagne.
Si
au sens strict du terme,
si je veux dire, c'est possible, c'est-à-dire il peut y avoir des listes effectivement de partis, de regroupements
d'individus ou de regroupements d'associations.
De regroupement d'associations et d'individus
d'accord.
tout court.
Tout est possible.
Des coalitions. C'est un système qui, du début à la fin, c'est un système à la carte.
D'accord.
Et on redistribue les cartes. Exactement. Voilà.
Alors,
la carte sur table.
Ça tombe bien. Bravo, Alphine Coinger. Alors, est-ce que ça signifie que... vous disiez un projet, il faut avoir un projet. Donc, ça veut dire que la liste... par exemple, là, tous autant que nous sommes ce matin, on fait une liste et on arrive avec un projet, une idée. Il faut ensuite... Bon, ça paraît idiot de poser ce genre de questions, mais c'est comme partout. Il faut séduire les lecteurs avec... un programme.
Absolument. Ouais.
Il faut des programmes élaborés, des projets complexes.
Une idée peut faire un projet. On n'est pas obligé d'avoir comme ça un catalogue de propositions. On peut avoir une idée, ça peut faire un projet. Après, c'est aux électeurs de décider s'ils veulent donner leur suffrage ou pas.
Par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir une liste sur une plus grande diffusion, un meilleur apprentissage de la langue arménienne auprès des pouvoirs publics, d'obtenir des subventions, par exemple.
Oui.
Une liste qui aurait ça pour objectif.
Par exemple.
Tout à fait.
Par exemple.
Ça serait pas noyé dans le reste des... Chacun à sa place,
non,
en
mais
fait.
Chacun privilégie le thème qu'il souhaite privilégier. Ce qu'il faut quand même bien rappeler, c'est que chaque association, chaque organisation politique garde son autonomie par rapport à son objet, sa conduite et ses choix qui se font en interne.
Oui.
Donc à partir de là, chacun reste libre et autonome. Maintenant, vous aurez une assemblée qui sera élue démocratiquement avec une certaine couleur, en tout cas une certaine dominante sur certains points, certaines idées, et on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas à un moment donné une interférence entre les décisions qui seront prises par les organisations politiques, voire l'ensemble de la communauté, et cette image qui est donnée, qui est reflétée par l'Assemblée. Donc c'est un peu le miroir de la communauté qui va quelque part jouer sur la vie politique interne. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est quel est le pouvoir de l'équipe qui sera élue, et ça, c'est la véritable réflexion qui doit être posée. C'est un pouvoir de dynamisme, d'influence, de mobilisation des énergies, le bureau du CFA ne pourra pas imposer à telle organisation politique ou à telle école l'enseignement de tel ou tel type de programme. Donc il y aura de toute façon un travail à faire avec une certaine habileté, un travail politique, mais qui sera dans la réflexion, la proposition, la suggestion, et puis à la fin, il y aura ce qu'on appelle le principe de la responsabilité. On fera un bilan de ce qui a été fait et on verra pourquoi ça n'a pas été fait. C'est comme ça que peut-être les choses bougeront et certaines inerties qu'on constate, il y a des choses dans la communauté qui n'évoluent pas depuis des décennies face à cette réalité qu'on aura pu confronter dans le cadre de cet exercice. On pourra dire, ben voilà, pour telle et telle raison, les choses n'ont pas avancé ou elles ont avancé parce que justement, vous avez été dynamique et percutant.
Oui, juste pour compléter ce que dit Armin, c'est-à-dire qu'il y a un objectif d'élection et de réélection. C'est-à-dire que les élections se déroulent tous les 4 ans. Alors, si demain, effectivement, il y a une équipe qui arrive aux responsabilités, seule ou dans une coalition, il faudra que cette équipe fasse preuve du dynamisme nécessaire, du respect des électeurs, de la volonté du plus grand nombre et de consensus, etc., pour pouvoir se faire réélire plus tard ensuite. Et donc, véritablement, ça rebat les cartes, mais surtout, ça ne présente que des avantages. C'est-à-dire qu'on a essayé de réfléchir les uns et les autres aux inconvénients que ça pouvait présenter à un moment donné. Ça modernise, ça responsabilise, ça légitime, ça renforce, ça ne présente que des avantages.
Alors, j'ai vu aussi, vous parlez de caisse de résonance. C'est une caisse de résonance, vous disiez, Gaïs Munassian, pour les associations, les partis. C'est-à-dire que ça vient renforcer,
Complètement, ça va redynamiser tout le tissu associatif et partisan. Je veux dire, que ce soit les trois partis ou que ce soit les associations, forcément, alors en plus c'est à la carte, donc si elles ont envie d'y participer, elles participent, si elles ont envie de soutenir une liste, elles soutiennent, si elles ont envie juste d'être membres du CFA, elles peuvent, mais on voit les modalités différemment, mais franchement, à partir d'un système fondé sur l'individu où il y aura du vrai lien social, du vrai débat, et ça va dynamiser même, je dirais, l'ensemble des médias. Parce que finalement, que ce soit IPFM, que ce soit Nouvelle d'Arménie, France-Arménie, si on continue dans cette situation actuelle, c'est quoi la finalité? C'est quoi demain? Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est très bien tout ça, mais finalement, est-ce que ça crée du lien? On n'est pas sûr, on n'a pas les repères. Et donc il faut trouver un système fondé sur un espace avec des règles unitaires, avec un vrai enjeu. Et on va enfin pouvoir pousser les gens à se poser des questions sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent pas entendre, ce qu'ils veulent voir se réaliser, ce qu'ils ne veulent pas. Et tout ça dans le cadre d'un...
Et quels sont les moyens qu'ils veulent se donner pour parvenir
exactement,
à ça aussi.
Et dans le cadre d'un espace unitaire.
Parce que là, ce sera fini le temps où on pourra dire c'est la faute aux associations, c'est la faute aux partis politiques. Chacun pourra agir aussi.
Et en plus, la responsabilité sera collective et individuelle, puisque moi, je mets mon bulletin dans l'urne. Ouais. Donc je suis responsable et ça coûte cher, ça.
Oui, justement, on va en parler concrètement. Mais juste, je fais une parenthèse pour dire à nos auditeurs, parce qu'il est 11h, donc on leur donne la possibilité d'intervenir dès maintenant, 01 43 53 20 74. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions à poser à nos invités et si vous avez un avis à donner sur ce futur CFA, Conseil franco-arménien. Alors ça coûte... Moula Papazian,
pour être tout à fait complet par rapport au portrait qui est brossé ici, rappelons malgré tout, ça a été dit, mais je crois qu'il faut le rappeler, que le CFA ne fait pas disparaître les associations, les partis, etc.
Au contraire.
Il y a le CFA, qui est la structure qui est élue, mais à côté du CFA, on ne fait pas disparaître les organisations humanitaires, sociales, politiques, de jeunesse, de sport, au contraire, qui continuent à avoir leur vie.
C'est très important de préciser ça, parce que les associations peuvent croire qu'elles vont être absorbées. Pas du tout, au contraire. Je veux dire, Armen l'a dit, mais il faut insister là-dessus. Chacune des associations garde son agenda, garde ses AG, les partis, leur congrès, leur section, leur objectif, leur façon de faire, leur mythe. Bref, chacun reste dans sa position, chacun fait ce qu'il veut et reste tel qu'il est. Mais ce qui change, c'est qu'on crée des synergies et on crée un espace unitaire. Et le CFA, quand on est dans la majorité, donc le CFA va apporter une projection, une capacité de projection énorme pour celui qui sera aux commandes pour réaliser ses projets. Parce qu'à partir du moment où on est représentatif et démocratiquement élu, les pouvoirs publics vous regardent différemment.
Bien sûr.
Et forcément, puisqu'on a le droit à des subventions publiques, que ce soit départementales, régionales ou même nationales, il y aura forcément une capacité de réaliser des projets qui sera beaucoup plus forte que ce qui existe maintenant. Maintenant, si l'association qui va se présenter perd, elle peut réaliser son projet, mais elle n'aura pas forcément l'appui de cette enceinte.
C'est
elle
ça.
Peut l'avoir si elle peut négocier, etc., etc. Mais a priori, ce sera un peu plus dur. Voilà, c'est tout.
Alors, non seulement c'est une caisse de résonance pour les associations, mais aussi les associations ont leur place dans ce CFA. Techniquement, il y a les délégués élus. Et il y a également un nombre de sièges réservés
au niveau
aux
régional,
associations.
Au niveau régional, parce que là, vous voyez aussi, comme quoi c'est vraiment à la carte. Il y a des petites associations qui n'ont pas de section au-delà d'un périmètre donné. Puisqu'on est à Marseille, on n'a pas de section à Lyon et à Paris. Donc on a coupé la France en trois. Et permettre aux associations d'avoir une représentation directe au niveau des régions. Et à titre consultatif, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas de cotisation, elles rentrent directement membres de droit, et elles peuvent, alors on verra dans les détails sur les lecteurs, mais elles ont ensuite des responsabilités sur le parrainage, sur ouvrir leurs locaux s'ils en ont pour organiser un bureau de vote. Bref, il y a cette prise en charge des associations, il y aura même cette aide aux associations, parce que parfois, il y a des associations qui n'ont pas de locaux.
Ouais.
Et donc, le CFA se chargera d'en trouver pour elles, etc., etc.
Mais elles peuvent être aussi observatrices et intervenir dans les débats.
Alors, ce n'est pas observateur, c'est à titre facultatif. Oui. C'est-à-dire qu'elles peuvent intervenir dans les débats. Elles peuvent discuter, parler, etc., dire ce qu'elles veulent.
Consultatif,
voilà, ce n'est pas observatrice.
Elles sont membres de droit. Elles sont membres de droit, donc elles participent au débat. Maintenant, effectivement, du fait qu'il y a eu une élection,
elles ont pas le droit
à un moment donné, quand il y a sur le plan régional des décisions à prendre, il est normal que ceux qui ont été élus aient la légitimité pour trancher.
Mais ça, c'est qu'en région, si j'ai bien compris. Sur le CFA national, les associations.
Au CFA national, il n'y a que les élus.
D'accord.
Mais les élus qui peuvent être représentés. Des représentants d'associations
oui,
ou de partis.
Bien sûr.
Non, mais c'est bien de le faire.
C'est-à-dire que...
C'est pareil, vous voyez, c'est la carte. L'association, elle peut se dire, bon, moi, je commence uniquement, je soutiens le CFA.
Et je ne présente pas de candidat.
Je ne présente pas de candidat. Je soutiens le CFA et je soutiens une liste. Je soutiens le CFA et je présente des candidats et je me fais élire. Et là, c'est une petite association. Il faut bien se rendre compte.
Oui.
Une petite association, disons de 10-15 personnes, dans le centre ou dans le sud ou à Paris, on va dire en province, dans les régions. Une petite association, si elle se débrouille bien, avoir un candidat bien placé pour être élu, peut se retrouver d'un coup propulsé vice-président ou président du CFA national. Vous vous rendez compte ?
Alain Touragnan ?
Non, mais il va y avoir un jeu de structuration, effectivement, de coalition, de rapprochement entre un certain nombre d'associations pour pouvoir être représentées dans ce CCA, dans ce CFA, mais elles auront effectivement...
On n'a pas
le CFA, elles auront effectivement Mais oui, il ne faut pas que les associations soient effrayées, si vous voulez, par cet enjeu des élections, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'associations qui n'ont absolument pas vocation, si vous voulez, à se présenter devant des électeurs, à mener campagne, etc. Et on pourrait considérer légitimement qu'il risque d'y avoir inégalité entre des structures politiques, des organisations installées au niveau national, dont c'est la vocation finalement de convaincre et d'aller devant les électeurs, de mener campagne, de rassembler politiquement, et puis des petites associations à vocation humanitaire, culturelle et tout ce que vous voulez, dont c'est pas du tout le boulot, mais il ne faut pas du tout qu'elles se sentent, et on n'a pas du tout voulu les exclure de ce processus, les marginaliser, au contraire. On souhaite les intégrer. Donc on a trouvé ce système en fait, ne change pas du tout la donne par rapport à l'existant. Donc, elles seront de toute manière présentes dans le système comme elles le sont aujourd'hui à l'intérieur du CCAF. Rien ne change pour elles. Elles auront une voix consultative, mais de toute manière, elles trouveront des relais parmi les élus pour défendre, le cas échéant, telle ou telle position. Mais de toute manière, très souvent, ces associations sont apolitiques, donc elles ne s'inscrivent pas non plus forcément dans les enjeux politiques. Donc pour elles, c'est tout bénéfice également aussi. En tous les cas, on a veillé à ce qu'elles ne soient pas du tout pénalisées par cette évolution. Au contraire.
Alors, l'élaboration du projet, il y a des statuts aujourd'hui, un règlement intérieur qui a été rédigé, des statuts pour les CFA régionaux, pour le CFA national, preuve aussi qu'il y a une volonté d'associer tout le monde, c'est qu'il y a eu des possibilités d'amender ces statuts, et vous avez, au cours de l'élaboration du projet, recueilli 42 propositions d'amendements qui émanaient d'associations, donc ça veut dire que... La possibilité a été donnée à toutes les associations membres du CCAF de s'exprimer et que si elles ne l'ont pas fait, qu'elles n'ont pas utiliser cette possibilité qui leur était donnée de s'exprimer. Aujourd'hui, elles auraient beau jeu de dire on est marginalisé, on est exclu, puisqu'il y a eu un vrai travail de concertation.
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au mois de janvier dernier, donc il y a 11 mois, il y a une première mouture qui a été présentée à chacune des associations du CCAF. Donc, à partir de là, il y a eu des observations, des critiques, des demandes de modifications qui ont été faites. Et ça fait un an qu'on prend en compte, qu'on analyse ces demandes et on les a intégrées dans la dernière mouture qui est présentée là actuellement aux différentes associations des CCAF régionaux. Donc là, elles ont jusqu'au mois de janvier ou 10 janvier pour présenter des projets d'amendement, mais définitifs. Et à partir de là, ce sera tranché par chacun des CCAF sur le plan régional. Et on aboutira, si les choses se passent correctement, à un vote d'un projet définitif au mois de février prochain, qui sera la mouture acceptée par chacun des CCAF sur le plan régional et donc qui sera validée.
D'accord. Donc, c'est encore possible jusqu'au 10 janvier de proposer
des amendements. Oui, tout à fait.
Amendements.
C'est-à-dire que la mouture qui est présentée au jour d'aujourd'hui prend en compte les demandes d'amendement. Je crois qu'il y en a eu 42, c'est ça ?
Oui, 42. 32, et vous en avez intégré 37.
Oui, c'est ça, 37
voilà.
Sur 42.
Sur 42, on a intégré 37, donc il y a déjà eu une grande modification, c'est quand même une mouture amendée et qui tient en compte et en considération les demandes faites par les associations.
Mais c'est important d'insister là-dessus.
Et là, il y a encore, la voiture balai qui intervient entre novembre et janvier. Ouais. Si les associations ont des remarques à faire, des précisions ou des demandes de modification, elles peuvent le faire par des amendements motivés.
Alors, je redonne le numéro de téléphone pour que nos éditeurs puissent se joindre à cette conversation autour de ce projet qui les concerne tous, hein, 01 43 53 20 74. Appelez dès maintenant et faites part de vos réflexions, puisque on le sent, là, vous êtes aussi disposé à écouter ce qui peut remonter de la base, comme on dit, et non pas que des associations. Si des remarques très pertinentes tout d'un coup émanaient d'auditeurs, est-ce que vous pourriez encore modifier les textes ?
Tout à fait.
Voilà, donc, raison de plus pour appeler.
On est à l'écoute et à la fin, de toute manière, ce seront les Français d'origine arménienne eux-mêmes qui auront le dernier mot. Il reviendra à eux, finalement, de choisir, de valider, de décider de s'orienter dans cette direction ou pas. Pour l'instant, c'est une réflexion que nous, on a menée au niveau associatif, dans un cadre restreint. Bon, maintenant, il va falloir qu'effectivement ce projet soit vécu in vivo et en réalité par l'ensemble des gens. Nous, on a beaucoup réfléchi en interne. Alors, bien sûr, les choses nous paraissent assez évidentes. J'imagine que pour les gens qui nous écoutent, peut-être que c'est pas si clair que ça. Donc, mais en tout état de cause, c'est eux qui vont décider in fine de savoir si on va s'orienter vers cette révolution, si on a eu raison de s'engager dans cette voie ou pas. Si les gens ne sont pas réceptifs, on en tirera effectivement les conclusions.
Alors, qui peut être électeur de ce CFA ? Gaëz Minassian, peut-être, pour donner la liste des critères.
Je ne serai pas le seul électeur.
Quels sont les critères ?
Alors, il y a 6 critères. Le premier critère, c'est d'adhérer expressément au statut et au préambule. Premier critère du CFA. Deuxième critère, c'est à égalité, je précise à égalité, d'être d'ascendance arménienne ou d'alliance arménienne, ou de vivre sous le même toit que quelqu'un d'origine arménienne, ou alors être parrainé par une association d'origine arménienne. Une association arménienne membre du CFA. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, c'est de vivre, d'être établi en France, sur le territoire national, que ce soit métropole ou dom-dom. Donc, faut être en France. Et il faut être soit citoyen français, soit citoyen d'un État de l'Union européenne, ou alors titulaire d'un titre
de
séjour valide de un an.
Un an suffit, d'accord.
Bien sûr, en valide,
oui,
en cours de validité,
sûr.
Quoi. Donc voilà, ça c'est un autre critère. Un autre critère également, c'est d'avoir 18 ans le jour du vote. Et un autre, c'est de participer de 20 euros, une prestation de 20 euros pour 4 ans. 20 euros pour 4 ans par électeur.
C'est-à-dire 20 euros par élection, en fait.
Voilà, 5 euros par, ça fait par an, donc c'est 40 centimes par mois. On précise tout de suite pour dire que
C'est pas grand-chose.
Et puis, Armen a insisté sur ce point-là, et je pense qu'il a raison, c'est notre indépendance. C'est une manière de 10 200 électeurs à 20 euros, c'est d'un coup de plus de 200 000 euros. Oui. Pour un début, pour commencer, c'est pas rien. Aujourd'hui, le CCF n'a pas cette somme.
Non, mais en plus, bon. Ça paraît évident aussi de.
Mais c'est important de le dire, pour dire que notre indépendance passe par là.
Mais pourquoi faire payer ces élections, alors, justement ? C'est nécessaire pour des questions de fonctionnement aussi, non ?
C'est un projet extrêmement ambitieux et il faut se donner les moyens cette ambition.
Financier.
Donc, faut pouvoir s'asseoir sur un budget suffisant qui fasse fonctionner. Il faudra des secrétaires, des structures, des locaux qui puissent accueillir 51 délégués 3 ou 4 fois par an. Et puis, il y a tout le reste. Il y a les campagnes de publicité et puis voilà.
Oui, et puis les élections en elles-mêmes vont représenter aussi un coût. Donc, il va falloir bien
l'assumer. Le sixième critère, c'est un justificatif de domiciliation, alors facture de téléphonie mobile, SFR, etc.
Mais quand vous disiez qu'il faut être
résident en France, c'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui s'appelle Pierre Andonian, qui vit en Belgique, qui est français, mais qui n'a pas d'adresse en France, il ne peut pas voter.
Ça suffit pas.
Et il n'y a pas de certificat
d'hébergement. Non. D'accord. Alors, donc 20 euros pour les électeurs, et pour être candidat, il faut être un petit peu plus riche, puisque c'est 100 euros pour faire partie d'une liste.
Voilà,
envie de dire que faire des élections, ça demande toujours un peu d'argent, puisque faut faire campagne, tout ça. On est en train de rentrer dans un système.
On n'a pas parlé du budget des campagnes, parce que ça regarde chacun. Mais effectivement, c'est 100 euros par candidat.
Pour avoir le droit d'être candidat.
C'est 100 euros, ça peut être lui qui les donne, ça peut être son association aussi représente. Enfin bref, libre à lui de découvrir. Mais sur une liste, hein. Il n'y a pas de candidat comme ça, électron libre.
On a bien compris. Tout le monde est sur une liste obligatoirement, donc il faut trouver des associations, des coalitions, des alliances, se regrouper à plusieurs, et donc une liste. Et ces listes, elles sont composées de combien de noms ?
En fonction du nombre de sièges à pourvoir. On a pris l'exemple de 20, 13, 18 pour le Nord, Centre, Sud. Eh bien, s'il y a 20 sièges à pourvoir au Nord, les listes du Nord doivent contenir 20 noms.
Donc,
ce qui est important, c'est la proportionnelle.
Oui.
Et la parité.
Alors justement,
C'est simple. Sur 20 noms, par exemple, si on prend une liste du Nord, sur 20 noms, il faut qu'il y ait 10 femmes et 10 hommes. Et au candidat de déterminer la place de ces 10 hommes et ces 10 femmes. Mais le principe de 10 hommes, 10 femmes est acquis.
D'accord, mais ça peut être 10 hommes de 1 à 10 et 10 femmes de 11 à 20 qui n'ont aucune chance d'être élus.
Voilà, je plains cette liste parce qu'à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de voix.
D'accord, donc l'idée c'est quand même d'avoir 1 sur 2, hein, si on veut
l'idéal,
respecter la parité. La vraie parité,
c'est au bout de la chaîne, c'est de voir sur 51 délégués
une
proportion égalitaire de femmes et d'hommes.
Mais ça peut poser des difficultés pour la liste des Dames de la Croix-Bleue quand même.
Ça c'est très sexiste comme remarque.
Non, mais c'est le plaisir de la parité.
Oui, mais on a bien dit aussi que les associations.
Et ça dépend, parce que si la Croix-Bleue est sur une liste d'alliances mixte, avec d'autres associations, d'autres partis, etc., c'est le problème n'est plus posé.
Justement, si la Croix-Bleue fait alliance avec les Dames du Taubeau de Sasserre,
on va peut-être laisser ces dames tranquilles, mais justement, vous posez une vraie question. Est-ce qu'une association a intérêt à présenter une liste en son nom propre, justement ? Parce que là, on se met tout de suite
on se met à la place des candidats, chaque association connaît ses intérêts et prend ses décisions. C'est très variable.
Alors, 0143 53 20 74, des auditeurs en ligne, non, toujours pas. Alors, on peut se poser la question de savoir, soit vous êtes très clair, soit ils n'ont rien compris, soit je n'ose pas proposer la troisième solution.
Ça démarre sur les chapeaux de roue.
Alors, donc, on continue sur le calendrier. On part du principe que les amendements ont été déposés jusqu'au 10 janvier, que vous en avez tenu compte et le projet est lancé. Et il faut trouver les électeurs. Première étape, c'est en fonction du nombre d'électeurs que l'on aura enregistré sur les listes qu'on pourra ensuite définir.
Il y a une autre étape avant, c'est-à-dire que les CCAF se réunissent et les associations du CCAF valident ou pas l'idée de mettre en place ce projet-là.
D'accord.
Donc ça, c'est le 9 février, je crois. Mmh. 9 février, il y a des réunions en région où ce sont les associations du CCAF qui, finalement, vont avoir le final cut sur la validation.
Voilà. Mais on se dit là que
on
c'est
se dit
fait.
Que ça fonctionne.
Bon, ça fonctionne. Donc on démarre et il va falloir aller opération recensement
voilà.
chez les électeurs. Alors comment ça va fonctionner? Parce qu'il va falloir donc faire œuvre de pédagogie, de sensibilisation, expliquer en quoi c'est important, en quoi c'est nécessaire. Ça veut dire qui va le faire? Parce qu'à ce moment-là, on a encore le CCAF.
Je crois qu'on sera amené à le faire d'une part collectivement en tant que CCAF, pourquoi pas, et puis on sera amené également à le faire chacun de notre côté. Enfin, tous ceux qui présenteront une liste auront forcément intérêt pour
mais on n'est
faire,
pas encore aux listes, là.
Mais quand même.
On est uniquement à l'étape, on a besoin des électeurs.
Je crois que les deux choses vont se faire parallèlement. Ouais. Je crois que le CCAF, dans l'état actuel, a besoin des électeurs pour faire fonctionner son concept. Et puis en même temps, chacun des gens qui sont dans les listes ont bien sûr intérêt, dans les milieux qui sont dans lesquels ils ont le plus d'influence, à essayer de mobiliser un maximum pour que les gens viennent s'inscrire un maximum et de manière à pouvoir peser un maximum à la fin dans ce...
Oui, mais là, vous êtes en train de juxtaposer la campagne électorale avec l'élaboration des listes.
Il a toujours été des
listes d'électeurs.
A toujours été à l'avant-garde, donc c'est peut-être pour ça qu'il dit ça. Mais sur le fond, il a raison.
Il n'y a pas de liste, on cherche à recruter les électeurs pour l'instant.
Oui, mais si vous recrutez un électeur, c'est que quelque part, vous avez soit l'intention de présenter une liste, soit qu'il y a des gens qui vont présenter une liste.
Bien sûr, mais la liste n'existe pas à ce moment-là. Sinon, on serait déjà en campagne électorale.
On peut imaginer, par exemple, tout à fait au hasard, que la famille FRA, avec toutes les autres sensibilités, qui vont aller chacune dans leur secteur, en fait, essayer de faire le plein et de mobiliser. Donc, par ce mécanisme-là, on espère, si vous voulez, que chacun dans son domaine, essayant de faire le plein, on va à la fin réussir à provoquer une addition qui permettra à ce projet d'avoir une certaine légitimité qu'on souhaite lui donner.
De toute façon, ça semble logique que les associations qui auront validé dans les régions le projet de CFA, ensuite, se donnent les moyens de sensibiliser leurs membres, leurs sympathisants, tous les Arméniens qu'elles peuvent croiser dans la rue pour qu'ils deviennent des électeurs potentiels.
Vous voyez que j'ai bien répondu à votre question.
C'est un travail de pédagogie, c'est un travail d'influence. Mais la démarche de s'inscrire est individuelle et personnelle et volontaire. C'est-à-dire que personne ne peut prendre le nom de qui que ce soit et de l'inscrire sur la liste. Non. C'est la démarche individuelle.
Il y a aussi des pédagogie, oui. Voilà.
Il y a aussi des associations qui n'ont pas envie de participer à l'élection, mais qui n'ont pas envie d'empêcher non plus. Parce que considérant que l'idée est bonne et qu'il y a effectivement des acteurs qui vont s'inscrire dans ce processus, elles n'ont pas envie d'empêcher, mais ne participeront pas forcément ni au recrutement, ni à la campagne électorale. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, bon, il y a des associations dans lesquelles il y a des membres de tous les courants.
Ils
sont présents et donc il y a déjà des grandes associations qui ont déclaré qu'elles ne participeraient pas à l'élection, mais qu'elles étaient favorables, évidemment, parce que l'idée était excellente.
Par exemple, les médias peuvent apporter leur concours, IPFM, les journaux, etc. Internet, on aura sûrement un site internet, les gens pourront télécharger un document.
Mais donc les médias apportent déjà leur concours en étant présenter le projet.
Exactement, justement, continuer sur la phase de pédagogique et d'inscription. Moi, j'inscris cette émission dans ce processus pédagogique, justement. Mais vous avez toute cette dynamique qui va forcément se généraliser. Et moi, je suis pas pessimiste, au contraire. Je pense qu'on va avoir des surprises.
Justement, sur cette idée de l'optimisme et du pessimisme, parce que vous tablez sur 10 000 électeurs pour avoir une légitimité, on va dire, parce que si on a une représentativité élue, mais qu'auprès des pouvoirs publics, il s'avère qu'elle est élue par 1000 électeurs, ça passera pas, je veux dire.
Ça passera. Non, on veut véritablement obtenir
maximum. Il n'y a pas de
chiffre. 10 000,
le maximum.
10 000, 10 000, membres, 10 000 membres payants, hein, oui. 10 000 adhérents, donc ce qui veut véritablement dire quelque chose. C'est une masse critique qui nous semble atteignable. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aujourd'hui des structures qui représentent un certain nombre de collectifs qui sont élus avec beaucoup moins de membres que ça. Donc nous, c'est vrai qu'on a mis la barre relativement haut, mais ça nous situe, si on y arrive, en tant que membre d'adhérents inscrits, encartés, puisque ça va être ça finalement, au niveau de petits partis politiques français, ce qui n'est pas négligeable.
Mais attention, là-dessus, il faut bien préciser quelque chose, c'est-à-dire que ce sont des électeurs.
Oui.
Ce sont c'est pas des adhérents en carte. Attention, faut faire attention.
Techniquement, disons.
Voilà. Non, ce sont des électeurs. Je veux dire, moi, je suis électeur.
Oui, mais l'électeur a adhéré au principe et valeur du préambule.
Je suis d'accord. Mais je suis d'accord.
Il y a un certain nombre de.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que.
Mais on lui demande rien après l'élection.
Exactement. On peut ne rien lui demander. Je veux dire, je peux voter. Voilà. Je peux voter et ne rien faire après pendant 4 ans.
C'est ça. La différence.
La différence est énorme.
Mais en même temps, c'est pareil pour beaucoup de syndicats et autres. Vous adhérez, vous n'êtes pas non plus obligé. Ça ne fait pas non plus de vous un militant forcené. Vous donnez votre voix.
Attention,
c'est un acte volontaire, symbolique.
C'était le seul moyen techniquement, justement, de s'inscrire dans la République. Oui. C'est vraiment ce qu'on a voulu depuis le départ. C'est effectivement de rassembler les électeurs dans une association loi 1901. Et véritablement, là, on n'est pas dans la structure État dans l'État. On est dans la structure anticommunautariste, transparente, parce que il n'y a rien de plus transparent en réalité que le processus qu'on est en train de mettre en place. Et il n'y a rien de plus opaque que le communautarisme. En réalité, donc on est aux antipodes.
Ne nous cachons pas non plus. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Ne soyons pas non plus effrayés par ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. C'est une grande association. Les gens vont effectivement avoir un rôle d'électeur, mais ils vont également exprimer leurs options, en fonction de leur idéologie, de leur sensibilité, de leurs intérêts. Donc ça va avoir. Mais quand bien même, ils auraient, on leur demanderait autre chose, d'un petit peu plus impliquant pour eux, que ça ne ferait pas non plus de cette grande fédération d'associations un État dans l'État.
Non, évidemment,
qu'on ne s'effraie pas. Je veux dire,
ce que j'ai voulu dire en parlant d'électeurs, en précisant électeurs, c'est que, en fait, le CFA sera ce que les électeurs en feront. C'est-à-dire que s'il y a une majorité culturelle qui se dégage, eh ben ce sera une majorité culturelle. Pendant 4 ans, il y aura de la culture. Si 4 ans après, il y aura une majorité de businessmen qui se dégage, 4 ans après, il y aura, a priori, réalisation d'un programme de type économique. Donc, et 4 ans suivants, etc. Mais ce qui est important de préciser, c'est que l'électeur, c'est lui qui va déterminer le contenu du CFA.
Oui, mais on ne lui demande pas de participer à des assemblées générales sous prétexte qu'il est rentré dans une association. Non, c'est ça, non, c'est qu'il n'y a pas de réunion annuelle.
C'est ça que je veux dire.
Voilà, donc c'est important quand même de le préciser.
Ce sont les délégués qui sont censés quand même les représenter quelque part.
Si moi je suis électeur et j'ai envie de faire passer un message, je vais voir les délégués, je leur dis, moi je veux ci, je veux ça. Ah, autre chose, les réunions du CFA, régionaux comme... sont ouverts aux électeurs.
Alors bonne question, c'est très bien de le préciser parce que...
Là ils s'observent, ils ne parlent pas, ils observent.
C'est public. Alors
moi, je suis électeur.
C'est public.
Je suis membre de rien.
C'est important.
Je suis aucun délice. Je suis pas délégué. Je suis rien. Je peux assister. Je peux assister aux réunions du CFA et national ou régional.
Donc ça veut dire que celui qui veut vraiment s'impliquer dans la vie de la communauté a les moyens de suivre en temps réel les discussions, les décisions qui sont prises et de faire remonter ensuite.
Et comme il va recevoir une carte d'électeur, donc au moment d'avoir accès à la réunion, il présentera sa carte d'électeur.
Et puis ça garantit une publicité des débats, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que ce nouvel organisme va s'intégrer un peu comme le forum de la communauté arménienne, c'est-à-dire que les débats vont jalonner la vie de cette structure, il y aura des oppositions, il y aura des accords, des positions consensuelles, des désaccords également, mais ça va obliger les Arméniens à se prononcer sur un certain nombre de questions et faire avancer le débat au sein de la communauté. Et comme le soulignait justement en début d'émission Ara, l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Je veux dire, on souffre actuellement d'une inertie qui est la conséquence de l'obligation de consensualisme qui est la marque de fabrique du CCAF. Là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans un futur proche, si le projet se déroule normalement, nous aurons la possibilité d'avoir des arbitrages sur des questions et chacun pourra se prononcer et affirmer publiquement sa position.
Alors nous avons un auditeur en ligne, nos auditeurs sont décidément, ils attendent toujours la dernière extrémité pour téléphoner, c'est trop tôt. Alors on va écouter tout de suite cet auditeur, bonjour.
Est-ce que c'est...
C'est à vous.
Oui. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Tout ce que vous avez dit ce matin, j'ai trouvé ça assez convaincant, mais ça serait beaucoup plus et incomparablement plus convaincant si vous n'étiez pas tous parents les uns avec les autres. Et ça me gêne beaucoup. Vous avez tous, à un titre particulier, je vais donner plus aucun détail, je m'arrête à celui-là, vous avez tous un lien particulier de parenté. Et ça me gêne. Alors que vous nous parlez du regroupement d'associations qui devrait cesser pour passer à un vote à toute la communauté, si c'est possible, peut-être 5000 ouais. personnes.
Mais est-ce que vous pensez que cet argument est très objectif? Parce que vous, vous savez des choses que les auditeurs ne savent pas, donc franchement, je vois pas pourquoi le fait d'être d'alliance familiale, ça change quelque chose.
Ça a beaucoup joué entre le rat et le moine.
Le règlement intérieur devrait inclure comme article ou comme disposition qu'au niveau national, il n'y ait pas des gens de la même parenté au possible.
Bah écoutez, l'argument est proposé. Merci pour votre remarque. Alors, pas de possibilité
si moi, je voudrais
d'être
rassurer,
de la même famille.
Je voudrais rassurer quand même cet auditeur, c'est qu'il sera difficile d'établir un lien de parenté entre tous les électeurs.
Plus important.
C'est le projet, c'est les électeurs qui vont le décider. Mmh. Et les 51 délégués, c'est les électeurs qui vont
les élire. Mais est-ce que ça existe
quelque
part, ça, dans les statuts d'un parti politique ou d'une association, que la direction, la représentation élue ne doit pas être composée de membres d'une même famille, etc. Enfin, ce côté un peu régalien.
Non, c'est surtout n'importe quoi, parce que c'est des relations d'alliance.
Je préfère me taire, je rêve.
Alors, juste pour poursuivre, mais pour conclure aussi...
En France, il y a des dîners politique fondée sur le suffrage.
Mais
je dis pas que c'est bien ou pas, mais je veux dire.
Mais il y a rien qui l'empêche, c'est ça que je veux dire.
Mais oui, mais on est en démocratie. Je veux dire, après, c'est pas parce qu'on
c'est pas
parce qu'on est dans des mêmes familles qu'il y a forcément même discours.
Oui, on est d'accord.
Heureusement.
Ah vous savez, entre on a calculé qu'entre Barack Obama et la dernière personne qui peut exister dans n'importe quel coin du monde, le lien entre l'un et l'autre, on peut y retrouver à
cinq liens pour arriver à
Barack Obama.
Ou à Nicolas Sarkozy, puisque vous êtes allé chercher un peu loin. Alors donc, juste pour conclure ce matin, et on y reviendra bien sûr, ce projet, il est unique dans la diaspora, si je me trompe, vous rectifiez. Au Liban, on le disait tout à l'heure, c'est les partis politiques qui parlent au nom de la communauté. Aux États-Unis, on entend souvent parler de l'Armenian Assembly et de la NCA, l'Armenian National Committee. En Russie, apparemment, c'est l'Union des Arméniens de Russie qui a pris un petit peu le monopole, enfin la mainmise sur la communauté, mais aucune de ces instances n'a cette légitimité élue.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'au Liban, c'est un système qui est complètement constitutionnalisé. Je veux dire, le système électoral, il n'y a pas de système électoral arménien, c'est un système électoral libanais. Et c'est dans le cadre d'alliances entre les partis politiques que se joue, que se détermine l'enjeu du scrutin. En Russie, effectivement, c'est pas du tout démocratique. Aux États-Unis, il n'y a pas de structure équivalente à ce futur CFA, au contraire. Et d'ailleurs, il y a eu une réunion à Los Angeles au mois de novembre, à laquelle moi, j'étais invité parce que j'étais chargé de mission du CCAF, donc j'y suis allé. Et il y avait des Arméniens du Canada, des États-Unis, d'Argentine, de Russie, un peu de partout. Et ils nous regardent ici avec des grands yeux, mais des grands yeux agréables.
Ouais.
Je veux dire, ils sont curieux,
admiratifs,
dans le bon sens, en disant comment vous avez fait, quelle est la procédure, et ils nous suivent de près.
D'accord. Donc c'est un exemple. Ça,
donc ça peut servir.
Un exemple,
mais attention, ce qu'il faut, je finis, Armin, juste, c'est qu'il faut laisser chaque communauté créer son propre système.
Oui.
Je veux dire, nous, on a créé un truc qui correspond à cette réalité
sociopolitique,
socioculturelle de la France. Je veux dire, l'idéal, bien entendu, why not, pourquoi pas, une assemblée mondiale à la diaspora. Mais bon, c'est possible.
Oui.
Mais il faut que chacun y aille à son rythme, à sa façon, et vienne se greffer, s'agréger comme ça à ce qui existe.
Juste un bémol à apporter, c'est que nos voisins belges, a priori, ont on crée une structure qui est quand même fondée sur l'élection. Et
Chypre aussi.
Le comité des Arméniens de Belgique est une instance, à ma connaissance, hein, sans connaître dans le détail, une instance élue. Donc,
à Chypre aussi, il y a le représentant de la communauté qui est élu directement par les membres de la communauté.
Donc voilà, enfin, c'est pas une première,
et c'en est une en même temps. C'est pas une première parce qu'effectivement Armène a raison et Mourad aussi sur Chypre et Belgique, mais à cette échelle,
c'est la différence.
Je veux dire Chypre et Belgique, c'est pas les mêmes communautés. Et c'est pas la même histoire.
Aussi.
D'accord. Je veux dire, il faut bien comprendre.
Mais c'est rassurant qu'il y ait des précédents.
Bien sûr, ça veut dire que c'est possible. Mais ce qui est important, c'est de se dire d'où on est parti. Il faut bien comprendre que la société française et la micro-société arménienne est une société qui était très politisée, finalement. Il faut bien se rendre compte que le courant communiste en France était 30% au lendemain de la Seconde Guerre. Et jusqu'en 80, c'était 14-15%. Ce qui fait que les gens qui s'inscrivaient dans la vie politique arménienne, dans ce courant de pensée, n'étaient pas marginalisés. D'ailleurs, la guerre froide, c'était une réalité. On va pas revenir sur le passé. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est ça qu'il faut que les Arméniens, les auditeurs entendent bien, c'est que chacun a mis au devant l'intérêt général. Chacun.
Alors j'en bafouille. Nous allons prendre un dernier auditeur. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour Asmig. Bonjour messieurs. Je voulais juste finir sur une note positive. Je fais partie de ces gens qui bougent à chaque manifestation nécessaire à notre communauté. Enfin, je voulais dire merci à la sagesse enfin qui a pris place à la paralysie depuis toutes ces décennies et qui faisait le bonheur de nos adversaires en nous divisant. Merci encore pour ces initiatives et ce travail.
Ben merci pour votre appel.
Voilà.
Et ce message merci. D'encouragement donc,
voilà, tout à, fait.
À nos représentants du CCAF et à
elle
ceux
a tout
qui les accompagnent.
Cette auditrice, c'est très bien.
Voilà. Bravo. Alors, le mot de la fin, on va faire juste un rapide tour de table pour conclure pour aujourd'hui. Rappelez peut-être chacun votre tour, les grandes étapes et ce qui nous attend, Mourad Papazian.
Écoutez, on essaye de mettre en place un projet qui est un projet d'organisation démocratique ambitieux, effectivement. C'est un projet qui ne doit pas faire peur ni aux organisations, ni aux membres de la communauté. On va véritablement créer une dynamique, une modernisation, une démocratisation qui va donner plus de force, plus de légitimité à notre action, à notre combat, à nos revendications, à notre représentation. Et donc, comme il a été dit tout au long de cette émission, on place l'individu au cœur du système. On a besoin des associations qui sont la cheville ouvrière, la colonne vertébrale de cette communauté pour continuer à créer la dynamique. En réalité, on transforme la communauté vers plus de force, de dynamisme. Et je crois que, effectivement, l'aboutissement, c'est de créer une union démocratique de la communauté arménienne, puisque au terme de l'élection, tout le monde travaillera en fait ensemble pour faire aboutir nos projets, notre combat.
Ara Toranian.
Oui, moi je crois que la démocratie est de toute manière un enjeu en soi. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train, si vous voulez, au niveau de notre collectif, de passer d'un stade qui était je dirais pas féodal, mais en tous les cas insatisfaisant. C'est le même type de révolution que la France quand elle est passée du système féodal au système républicain, finalement. Et ça me paraît être un passage totalement obligatoire pour la communauté arménienne, et ça va nous permettre d'atteindre vraiment un niveau de maturité. Ça va exprimer une évolution et une maturité dans notre évolution de pensée et d'être. Et en même temps, je crois fondamentalement que ça va nous donner plus d'unité et
plus de poids.
Beaucoup plus de poids, bien entendu.
Armen Kouyumdjian, donc vous êtes également membre du Conseil national du CCAF, partie prenante intégrale de ce projet. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, à quelques semaines maintenant en fait du lancement, si tout se passe bien?
Si tout se passe bien, donc il y a quand même cette première étape qu'il ne faut pas oublier. Hein. Il faut
validation.
Que toutes les associations arméniennes du CCAF se sentent mobilisées et convaincues par ce projet. Et le vote le valide. Et après, je crois qu'on sera doté d'un outil, d'un organisme qui va nous permettre d'affronter les nouveaux défis du 21e siècle. Hein. Voilà un siècle de présence arménienne post-génocidaire en diaspora. Au bout d'un siècle, il est temps de se doter de nouvelles institutions et d'aller de l'avant.
Alors Gaïd Minassian, le mot de la fin de la fin pour bah, moi, je vais finir, charger de mission.
Je vais finir pour rassurer aussi les gens qui auraient...
Mais charger de mission, mais aussi individu, je disais, non membre d'une association.
Justement,
hein,
justement, voilà, donc c'est important parce que moi... Bref, moi, ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que ce projet est passé sous le nez des, sous les yeux plutôt de constitutionnalistes, d'historiens, de juristes, de philosophes, de sociologues, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est comme ça, qui est venu spontanément. On n'a pas confondu, comme dit Alexis, vitesse et précipitation. On a travaillé vraiment, on a pris notre temps. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller plus vite, mais bon, on a pris notre temps, on n'a rien précipité, on a travaillé main dans la main, et je le dis encore une fois, les gens qui pensent que l'unité chez les Arméniens, c'est pas possible, eh ben, le CFA est là pour prouver le contraire, et c'est vraiment quelque chose d'innovant, et je peux même vous dire que, l'ayant montré à un ami qui est haut fonctionnaire et qui est préfet de statut, qui m'a dit que c'était malin, intelligent et bien fait, et que ça peut servir de modèle pour d'autres, dans cette république qui cherche quand même à dépasser un peu le jacobinisme.
Bah c'est important de le dire, de signaler pour nos auditeurs.
Finalement, les Arméniens ont été absents de ce débat, sur ce débat sulfureux sur l'identité nationale. Ils sont absents sur l'histoire des Roms, les expulsions, etc. Eh bien, nous, on arrive avec un projet. Voilà.
Qui
peut-être
donnera...
de responsabilisation des gens pour qui essayer de trouver une manière de recréer du lien social dans le cadre de la République. Et je pense que c'est un bel exemple d'intégration.
Merci messieurs pour cette première présentation du futur CFA, en espérant effectivement que l'étape suivante sera l'étape numéro 1, hein, qu'en février ce sera validé, et qu'on vous retrouvera pour lancer la première émission à destination des électeurs potentiels. Merci.
Merci. Merci.
Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.